pour ne pas être dissous à nouveau dans l'ambiance. Puisque nous avons pu, par la cardinale, sortir des eaux de l'infâme et de la morte et de l'indifférencié pour se saisir de ce qui est une différenciation, la différenciation qui a fait l'individualité de l'homme. Ça nous a valu immédiatement une forme spécifique qui est la forme humaine. Ça nous a valu une morphologie, en bref, avec toutes les variétés de nos espèces différentes d'hommes. Mais ça, nous le devons à la croix dite cardinale, celle qui nous ouvre les portes du moule de la forme, du moule de cette morphologie, et c'est là ce qu'on appelle d'ailleurs la base même de l'incarnation, la descente dans la forme. Passant d'un certain degré d'informe dans une forme. Or, qui est le sujet d'une telle sollicitude? C'est précisément celui qui est crucifié sur la croix fixe, c'est notre soleil et ses quatre bras de croix, de la croix fixe. Ça, c'est toujours le sujet de toutes ces sollicitudes. Maintenant, nous allons parler à partir de ce soir, et certainement la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, nous entrons dans une métaphysique de l'astrologie considérable, qui est absolument indispensable pour la pratique directe, comme vous allez le voir. Car il est inconcevable d'aller loin dans l'interprétation des configurations planétaires sur les bras de la croix de votre thème. On ne peut pas aller loin si on ne peut pas voir ça avec une vision à la fois microscopique et télescopique. Et ne pas s'arrêter à la première station de train sur la route. La croix de la métamorphose, c'est la croix mutable. Et je veux tout de suite vous donner une image qui sera définitive. Pensez à la chenille. La chenille, puis la métamorphose, la chenille par le passage dans ce qu'on appelle un coco, et enfin l'éclosion d'un papillon. Voilà un phénomène qui est dans la nature. C'est un phénomène naturel, c'est un phénomène courant. Il y a d'autres insectes qui connaissent cette forme spéciale de la métamorphose. Et cette image a été employée en poésie innombrablement pour parler particulièrement de la mort comme étant le cocon par lequel la chenille humaine devient papillon de l'esprit dans un monde spirituel. Ceci est une exagération. L'homme ne devient pas un papillon si chenille il est à sa mort, il ne deviendra pas un papillon après sa mort. Ça, c'est une image extrême. On la conçoit, mais elle est extrême. Il finira bien par devenir un papillon sans avoir à redevenir une chenille. Mais tant qu'on doit redevenir une chenille, c'est que le vrai papillon archétypique n'est pas achevé. Mais je reviens à cette image, parce que l'être en question, c'est donc la croix fixe, avec ses quatre bras, dont le sommet, la volonté du ciel, la dixième, c'est le Verseau, dont Uranus, dont les bras latéraux, c'est le taureau et le scorpion, et dont le pied de croix, c'est le soleil. Et alors ça c'est l'être de la chenille, mais la forme de la chenille, c'est le bras cardinal, c'est la croix cardinale. Or la croix cardinale nous dit, tant que la chenille n'aura pas acquis, n'aura pas atteint une sorte de plénitude de l'état de chenille, la plénitude de l'état et de la forme complète de la chenille, des possibilités, du potentiel qui est dans le principe, dans l'état d'être qui s'appelle la chenille, il n'a pas le droit d'être appelé au cocon qui va alors le transformer en un papillon. Voilà la fonction d'équilibre dans le cosmos qui exige que ce soit donnant, donnant, tout le temps. Et que les choses soient réglées, acquittées, avant que de nouveaux comptes soient engagés à leur tour. Voilà. Donc la chenille se forme par la croix cardinale. La chenille, c'est naturellement l'être dans la chenille, c'est la croix fixe. Et alors, la métamorphose, la croix mutable, commande la transformation de la chenille en papillon. Cette mutation de cette espèce, de l'être de cette espèce, cette mutation dans le courant même de la vie, d'un cycle de vie d'une chenille, se répète dans tous les cycles humains. Si nous y regardons bien, nous avons des gens, pas tous, mais il y a des gens qui, c'est un principe qui est très humain, nous avons les droits de nous comparer à la chenille. Nous sommes énormément comme ça. Nous ne serions pas humains, nous n'aurions pas le génie de l'homme si nous n'avions pas en nous la capacité de la métamorphose en papillon. Nous prenons des ailes. Nous sommes des rampants et nous prenons des ailes. C'est indéniable, c'est dans le stock même, dans la matière même dont nous sommes faits. Nous prenons des ailes. Quelques-uns ont des ailes courtes, et le corps très lourd, ainsi les poules. D'autres ont des ailes très longues et le corps très mince, ainsi les hirondelles ou d'autres oiseaux. Bref, la métamorphose. S'il y a une chose qui vous amène l'astrologie, c'est le don d'observation. Le don d'observation. Avec quelle acuité au cours de quelques années, vous allez percevoir ce qui grouille et s'agite et travaille dans l'intérieur des autres formes humaines que vous fréquentez. Or, il est certain, et je le vois dans l'analyse du développement d'un thème astrologique, d'un thème radical, que certains d'entre nous sont au bénéfice, mais aussi, disons le mot, sont sous l'obligation de subir une véritable métamorphose de chenille à papillon dans le courant même de cette vie et sans mourir pour cela. Ils doivent mourir à eux-mêmes, comme si la chenille se défaisait de plusieurs peaux ou de plusieurs morphologies et nous avons des êtres qui sont littéralement en état de cocon. Enfin, il suffit de regarder autour de soi. Alors naturellement, vous voyez par exemple cette conception naïve de la substance de la personnalité humaine qu'a eu la majorité des hommes qui a osé concevoir la fixité éternelle, vous entendez la fixité éternelle, pour ne pas dire pour la durée de la vie terrestre, du sacrement du mariage. Le mariage a été sacramentalisé. Les effets de ça ont été incontestablement excellents. Et le principe de la soudure s'est développé d'une façon énorme. C'était aussi une loi. La procédure a été un peu brutale, surtout assez naïve. Parce que on est parti de l'idée que l'homme est monolithique et qu'il reste essentiellement toujours le même. Alors, je vous demande un peu ce qui se passe si deux chenilles se marient et que l'un devient un papillon plus vite que l'autre. Il reste que l'un d'eux est une chenille, l'autre est un papillon, et franchement, il n'y a plus de mariage. Il y a un décalage complet. Or, très souvent, cette image est valide dans les ruptures d'associations étroites et qui sont à base de l'idée de la durée que nous appelons les mariages civils et surtout les mariages religieux. Si nous connaissions la loi de cette vie, la loi qui veut que nous croissions, il est beaucoup plus important de croître que de simplement nous étendre latéralement. Que le mariage lui-même, c'est un crucible, c'est un alambic dans lequel est travaillé deux âmes, mais travaillé beaucoup plus dans l'intérêt de l'espèce, dans l'intérêt de quelque chose qui les dépasse tous les deux, que dans l'intérêt simplement réciproque, un va-et-vient de l'un à l'autre. Il y a d'ailleurs toujours le troisième principe lorsque deux sont en association. C'est le principe d'ailleurs ici symbolisé par la pyramide. Il y a des êtres qui sont bien plus intéressés à vos heures et malheurs, et surtout à cette question de la balance qui représente la mathématique du mariage, que vous n'y êtes intéressé vous-même. Et c'est ça qui est un des enchantements et l'une des surprises que vous révèle l'analyse microscopique du thème. Je répète, si l'Uranus du thème, maître de votre soleil, maître de votre être, l'être-té de vous-même, l'essence de votre être-té, n'est pas d'accord sur votre mariage, sur la durée de ce mariage, il ne le bénit pas, autrement dit, s'il n'est pas béni par le ciel, il ne peut pas durer. Il n'y a aucune volonté humaine qui pourra le faire durer. Mais par contre, si l'Uranus du thème, la volonté du ciel, la volonté de ce qui plane sur ce soleil, appelé en association, à former cette cohésion par laquelle seul un cosmos peut entrer en existence et durer, si lui bénit ce mariage, il n'y a rien qui peut le casser. Aucune déformation, accident physique de l'un des conjoints ou des deux, et surtout de l'un. Quand on a des couples dans lesquels on entend l'un d'eux dire « Oh mon Dieu, je vieillis tellement plus vite que mon mari » ou « plus vite que ma femme » et je demande ce que ça va faire de notre mariage, cela vous montre la ténuité de l'équation, du pont établi entre les deux. Et si cette puissance qu'on appelle Uranus dans le thème est derrière ce mariage, rien ne le dissoudra. Au contraire, les exigences obligatoires d'une infirmité de l'un des conjoints seront une source nouvelle de vie créatrice pour son compagnon. Et il le fera avec une joie qui sera une joie non pas purement personnel, grand Dieu, non, mais une joie qui tient de l'essence même de son instinct vital. Alors, je reprends cette image, vous restez, voilà l'image pour la mutable, la chenille et le papillon. La huitième maison, signe fixe, le scorpion. C'est là où le cocon se forme. C'est là où la métamorphose s'embraye. C'est là le signe, la fin d'un signe fixe qui travaille à cela. Et alors, s'il va y avoir la mutation, si on va pouvoir la réussir, et nous la réussissons tous, sinon en degré, du moins en minute, s'il y a une mutation véritable, il y aura un renouveau, une forme nouvelle dans le Sagittaire. C'est le Sagittaire qui est le prince générateur des formes nouvelles et que le Capricorne attend pour maintenant lui donner l'exercice de son nouveau caractère. Tout ça, c'est des cycles qui se suivent les uns après les autres par un ordre absolument implacable. Et un ordre qui assure que la volonté de l'univers de nous faire des êtres de plus en plus équipés, de plus en plus harmonieux, de plus en plus heureux, de plus en plus plein, que nous soyons à la table de l'univers et que nous soyons capables d'y manger tout ce que cette table a destiné à nous donner. Songez à cette chose extraordinaire, que le pied de la croix fixe, la croix fixe, c'est celle-ci. C'est la lune. Que le pied de la croix... c'est le pied de la croix cardinale, ça. C'est la lune. Que le pied de la croix fixe, c'est le lion, par conséquent, c'est le soleil. Et que le pied de la croix mutable, c'est Mercure. Or, le vrai Mercure, c'est celui de la Vierge. L'autre aussi, mais c'est le même Mercure, seulement celui qui est vraiment pilier, fin et commencement de tout pour ce qui est du Mercure, l'intelligence, et la mémoire, la fée mnémosine, mais c'est la Vierge. C'est la Vierge. Alors, c'est ce Mercure-là. Or, c'est elle, cette mnémosine, c'est elle, cette Vierge, c'est elle, ce Mercure, qui est au pied de la croix mutable. Et c'est toujours ce qui est au pied des croix qui est l'objet des puissances de la croix. Donc, l'objet de la croix mutable sera Mercure, pied de la croix mutable, Mercure de la Vierge, c'est-à-dire le signe de la Vierge. C'est là tout l'objet de la mutable. Alors, vous voyez que graduellement, une métamorphose s'est faite ici. La Vierge est en mutation, elle est le résultat d'une mutation. C'est une nouvelle morphologie qui commence. Et du moment que cette morphologie a commencé, elle va maintenant être employée dans le cycle par le Capricorne, qui la fera entrer dans le sein d'une mère, le Cancer, qui la fera sortir sous la forme d'un soleil nouveau pour une nouvelle mutation qui en fera de nouveau un Mercure, car Mercure, c'est le futur soleil, et le soleil, c'est l'ancien Mercure. C'est un cycle-là de croissance que l'on peut très explicitement saisir dans l'analyse astrologique et psychologique. Naturellement, c'est psychologique avant tout. L'astrologie ne fait que donner un langage symbolique qui ramasse et qui représente les grandes forme les grands drames de la vie, et les grands ponts, les grands échanges de la vie. Il faut d'abord qu'on ait saisi la qualité et la quantité de ces échanges avant qu'on puisse donner une langue symbolique ou algébrique à ces échanges, à ces relations, que nous appelons l'astrologie. L'astrologie, c'est une langue symbolique qui sait tailler, mesurer, arpenter le jeu des puissances de la vie. Je disais l'autre fois, la deuxième conférence de janvier, que dans la croix cardinale, c'est le feu qui commence. Veillez. Or, quand on passe, il faut prendre les croix maintenant, et le sens des éléments et le sens des signes est beaucoup plus en vertu des croix auxquelles ces éléments appartiennent que dans la simple succession des signes du zodiaque. Quand on passe du bélier au taureau, on n'a pas simplement changé d'un signe, on a changé d'un axe. Et quand on passe au gémeaux, on a aussi changé d'un axe. Et on entre maintenant dans la loi du troisième axe, pour rentrer dans la loi du premier axe dans le cancer. Le feu du bélier est toute énergie créatrice, c'est-à-dire émergente. La création réelle, c'est une émergence. C'est la montée de quelque chose qui est dessous à quelque chose qui est au-dessus. Car la loi de l'univers et le devenir de l'univers, c'est une émergence perpétuelle. Ce n'est pas du tout une marche à plat. Ce n'est pas nécessairement une marche qui descend. Ce n'est pas une dégradation, une déliquescence. C'est une montée graduelle. C'est le grand principe de la croissance. Il ne faut jamais l'oublier parce que le temps n'est jamais plat, et le temps, c'est la croissance. Et que le temps nous offre précisément un mouvement de plus en plus accéléré sur une spirale qui nous offre des plateaux successifs, toujours plus hauts les uns que les autres. Lorsque la Terre tourne autour du Soleil, elle ne revient jamais à la même position. Plus exactement, elle ne revient jamais au même plateau dans un système de référence cosmique qu'elle avait l'année précédente. Elle revient au même degré par rapport au Soleil. Elle a fait un tour par rapport à lui, mais comme le Soleil s'est mu lui-même, il a bougé aussi. Naturellement, la Terre l'a suivi dans son mouvement, et comme elle l'a suivi dans son mouvement, elle ne l'a pas suivi Une meute suivrait un chamois dans un pré. Elle l'a suivi dans une montée, car le soleil lui-même est en spirale autour d'un super soleil, et ça, il ne faut jamais l'oublier. Car toute l'astrologie sera construite sur une espèce de vide, et on oublie le soleil lui-même, avec ses astres, ses attributs qui sont ses planètes, et qui sont les fonctions de relation entre lui et d'autres soleils, est nécessairement en mouvement dans un principe de croissance, par une loi de croissance qui est celle de la croix, et j'y reviendrai tout à l'heure, et qui est la même pour toutes les galaxies et tous les mondes visibles et invisibles, jusqu'au seuil de l'absolu, c'est-à-dire de l'ineffable, de l'innommable et de l'intransmissible, au-delà de tout ce qu'on peut chiffrer. Alors le bélier, lui, c'est le feu. C'est le feu attaquant l'immédiat. Le bélier n'est pas intéressé pour les choses à distance. Il veut, il ne connaît que l'immédiat et il fonce dessus. Or, l'immédiat sur lequel il fonce, c'est la grande coupe qu'on appelle de l'expérience de l'émotion, qu'on appelle le cancer. C'est l'eau. Ce feu va dans l'eau. Le feu ne va jamais que dans l'eau. La raison d'être du feu, si l'on veut, c'est d'aller dans l'eau. Elle n'ira pas dans la terre, elle n'ira pas dans l'air, le feu, elle va dans l'eau. Il faut que le feu trouve dans l'eau la matière de ce que le feu a dessein de faire et ne peut faire qu'avec de l'eau. C'est donc l'indifférencié du cancer, et vous voyez qu'on pourrait analyser ça déjà pour toute une soirée, mais je vais vite parce que la plupart d'entre vous savent très bien de quoi je parle. Alors il va dans le cancer et après il en ressort, il a divisé ses eaux. Il a décanté cette émotion, cette immense marée, cette immense, ce lac d'émotion que nous appelons notre lunaticité, notre lune en nous-mêmes. Ce monde énorme et vague, imprécis, mais énorme, cette masse liquide que nous appelons en nous le sentiment, la sensation, la sensibilité. Et le feu entre là-dedans. Et il fait une découpe là-dedans. Et il fait un triage là-dedans. Et il prend ce qu'il il prend. Mais comment le prend-il? Il le prend en faisant exactement là une sorte de partage des eaux. Et le triage qu'il va faire se fait dans la balance. La balance qui pèse si ceci vaut la peine d'être retenu et d'autre part rejeté. Remarquez que la balance est le signe qui commande nos reins, et nos reins, c'est la balance qui détermine exactement ce qui, dans notre sang, n'est plus nécessaire. Elle ne doit pas être retenue, mais au contraire, rejetée. Et alors, lorsque on retient dans la balance quelque chose, alors c'est mis au grenier, si l'on veut maintenant, c'est mis dans la grande réserve, c'est l'acquis définitif du caractère et de la forme qu'on appelle le Capricorne. La preuve, c'est que là, dans le Capricorne, ou la preuve, c'est une des preuves, c'est que l'exaltation de Mars est au Capricorne, c'est que quand l'exigence de l'archétype, alors, de la forme, l'archétype lui-même de la forme a été satisfait, il n'y a plus besoin du moindre effort de pousser contre une résistance et plus besoin d'une exploration quelconque. Elles ont été tout achevées. Maintenant, passons à l'autre feu, c'est le feu du lion. Cinquième signe et cinquième maison, le feu du lion, alors lui, c'est le feu de l'être, cette fois-ci. C'est le feu de l'être lui-même. Le bélier, c'est le feu de son levier pour entrer dans un moule formateur. Mais maintenant, c'est le feu de l'être lui-même. Alors lui, il plonge dans le scorpion. Et dans le scorpion, il fait la même chose dans les eaux du scorpion. Et les eaux du scorpion, c'est tout autre chose que ce que nous appelons l'élément eau dans le cancer. C'est l'inconscient collectif. Et comme le soleil est un inconscient, est un conscient personnel, ou plutôt une unité personnelle, pour aller au sein d'unités qui représenteront une collectivité de soleil, faut-il que là, il aille pour faire un choix parmi les soleils. Et voilà le choix qui se fait à la conception d'un enfant. Car le scorpion a le droit de choisir parmi les innombrables soleils qui sont là dans la prénatalité, celui qui va être vraiment, comment dirais-je, embranché et sorti de la prénatalité pour entrer dans l'incarnation. C'est le scorpion, c'est l'eau du scorpion. Et cette idée que je viens d'exposer très crûment, elle est à la source même des opérations les plus subtiles du signe même de l'eau du scorpion. Or, lorsque ça s'est fait, il faut que ça passe un triage, le signe d'air. Le triage, l'air qui est toujours le signe mental. L'air qui dit toujours, voyons le rapport entre ceci et cela. Voyons toujours si ça pèse bien, si ça compte bien, si je peux le prendre ou le rejeter. Et le verso rejette ou accepte. Et quand il l'a accepté, ce qu'il a accepté, alors se tasse définitivement, se dépose comme un acquis définitif dans le signe du taureau. Voilà pourquoi l'Écriture sainte nous parle et dit, nous dit que les hommes, que Dieu dit à l'homme, possédaient la terre. Oui, mais qui peut être le possesseur de la terre? Quel est l'individu qui peut lier le sens du verbe avoir à un objet qui est la terre elle-même? Voilà la fonction de la croix fixe. Et pour finir, croix mutable, le feu, alors le feu divin, alors le feu qui vient d'un soleil supérieur au nôtre, d'un monde supérieur au nôtre, plus grand que nôtre, un monde dont nous ne sommes qu'une partie et dont lui est l'entier. Il est ce monde qui est ici, dont nous ne sommes qu'une partie qui est ici. C'est la loi du cône, et c'est à dessein que j'ai fait trois croix qui se suivent et qui s'embrayent les unes sur les autres, j'y viendrai plus tard, et la montée se fait par cet appel, comme par cette descente du plus grand au plus petit, par le principe de la division, et du plus petit au plus grand par le principe de la multiplication. C'est tout le principe Jupiter, Saturne en jeu. Alors, le feu du Sagittaire, lui, il descend dans l'eau du poisson. Il divise cette eau. C'est l'eau cosmique. Alors, c'est l'inconscient collectif universel, au-delà même de l'espèce humaine. Dans le scorpion, c'est l'inconscient collectif humain. Là, c'est le signe fixe et c'est la juridiction de l'état, de l'être humain, c'est son monde à lui, l'être humain, ni moins ni plus. Mais lorsque nous parlons du poisson, nous entrons alors dans le collectif, dans l'inconscient collectif général, qui peut être aussi bien l'animal, la plante, le minéral, la cellule la plus primitive, qui peut monter d'autre part à une morphologie transcendante. Alors le feu du Sagittaire, il va dans le poisson, il divise les eaux du poisson, et de cette division des eaux du poisson, je vais spécialement parler jeudi prochain, lorsque je donnerai une fois encore la démonstration péremptoire que Pluton a sa régie ou sa position majeure dans les poissons aussi bien que Neptune, et non pas dans le scorpion, et ça j'y reviendrai dans un moment. Sur le scorpion, peut-être je reviens ce soir, mais alors la démonstration finale que votre intelligence peut saisir, sans parler de la démonstration pratique dans les thèmes, que c'est bien dans le poisson qu'il faut voir l'action de Pluton, et non pas dans le scorpion, ni dans aucun des signes de feu, comme certains astrologues l'ont placé, comme maître, n'est-ce pas? Alors ça c'est une autre histoire, mais ça sera spécialement l'histoire de la semaine prochaine, parce que si l'on savait vraiment tout ce qui contient le poisson, l'eau du poisson, qui est l'inconscient collectif, extra-humain, on comprendrait mieux ce que c'est que la Vierge, qui est le but de toute l'action de la métamorphose, de cette croix mutable. On comprendrait mieux les mystères du corps humain, puisque la Vierge ici, c'est le corps de l'homme. Ce qui est définitif, ce qui est acquis, ce qui est substantiel, ce qui est solide, c'est la morphologie particulière de l'individu. Dans son rapport avec le monde intérieur d'une part, celui de son âme, avec le monde extérieur du part, par conséquent par son corps, cette morphologie spéciale et son économie interne, c'est ce que nous appelons le corps humain. C'est ça la sixième maison astrologique. C'est la constitution même. L'ascendant nous donne une... Comme l'ascendant, c'est la huitième maison de la six, c'est la métamorphose de la six, il est à soi que la première maison astrologique, dans ce sens-là, donne énormément sur ce qu'on appelle le tempérament de l'individu, comme sur sa forme, bien entendu. C'est la façon dont il met le nez à la fenêtre. Et c'est donc la tête en général. Mais ça ne dit rien pour le reste du corps. Et toujours l'axe central, le mystère de l'équilibre biologique de l'individu se trouve dans la Vierge, c'est-à-dire dans la sixième maison. Dans la croix mutable, il n'est pas ailleurs. Cette croix mutable commande toutes les autres. Elle est effacée parce qu'elle est derrière. Quand vous voyez une personne, vous ne voyez pas la croix de mutation, ce qui se passe dans son esprit. Vous ne voyez pas ça, vous. Cette montée et descend d'un feu spécial qui nous montre la sixième maison de son corps. Ce rapport est étroit entre les trois terres, les trois acquis définitifs, le Capricorne, le Taureau, la Vierge. Et la Vierge, c'est le feu du Sagittaire. Et quel rapport, vous voyez, entre votre système nerveux involontaire, le grand sympathique, avec toute espèce de forme de ce que nous appelons le psychisme humain, tout le jeu de la Kundalini en nous. Toute cette montée et descente d'un feu spécial qui nous monte dans la colonne vertébrale. Toute cette vie de l'axe de croix, de cet arbre de la vie qui est notre colonne vertébrale avec ses vertèbres. Tous ceux qui ont expérimenté ça, et j'avoue qu'il faut l'avoir expérimenté pour comprendre vraiment que nous ne sommes pas ici dans un plan purement académique et littéraire, ou esthétique, ou que sais-je, mais que nous sommes vraiment dans l'alambic même de la réalité la plus immédiate, la plus essentielle, la plus stratégique de notre être. Quand quelqu'un devant lequel on se penche en disant « Mon Dieu, il est mourant, il s'en va », et que d'un œil qui s'ouvre tranquillement, il hoche la tête, ou simplement d'un murmure, d'un souffle, il vous dit « Non, je sais que mon heure n'est pas encore venue. » C'est la Vierge qui parle. C'est là la puissance qui réside dans cette flamme vitale, dans cet acquis, dans cette mnémosyne, dans cette mémoire. Alors vraiment, la mémoire, est-ce que la mémoire n'est pas une morphologie? Est-ce que ce n'est pas la plus belle des morphologies? N'êtes-vous pas vraiment la forme de votre mémoire? N'est-ce pas elle qui s'affirme à tout instant devant l'écoulement des choses, devant le flux imbécile et crétin de tout ce qui passe devant vous, autour de vous, quand vous voyez les journaux, les cinémas, la télévision, enfin, les gens dans la rue, enfin, tout ce qui passe. Il y a quelque chose qui arrête ça, et qui retient, et qui dit non, 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 oui, non, 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 oui. Voilà. C'est la Vierge qui parle. Voilà le criticisme essentiel du signe de la Vierge, et voilà pourquoi les gens qui ont le soleil dans la Vierge, l'ascendant dans la Vierge, sont très fortement caractérisés par ce que je viens de dire. Passons. Parler de la croix mutable, donc de métamorphose, c'est parler du principe d'ascension. C'est partie du principe de translation des grandeurs. Il ne s'agit pas d'additionner les choses, de les empiler, il s'agit de les translater. C'est on passe du petit au grand. Et Jupiter, c'est la puissance en nous qui nous dit que ça doit être fait et qu'on peut le faire parce qu'il nous en donne le pouvoir et le besoin. C'est le passage, la partie à l'entier. Et maintenant, il faut qu'en instant, je vienne, pour ceux qui n'ont pas encore pensé à cette immense conception philosophique et scientifique de la loi de la part et du reste, ou plutôt la loi de la part et de l'entier. Le holisme, H-O-L-I-S-M-O en français, la conception holistique du mot holos en grec qui veut dire le tout, l'entier, la conception holistique de la procédure de translation de la vie. La vie se translate, elle passe d'un état dans un autre en vertu d'une loi mathématique qui est le passage de la partie dans l'entier. Or, ici, vous voyez que l'entier pourrait être représenté par ceci. Je n'ai qu'à faire le cercle autour. Vous voyez là la représentation d'un entier. Et ici, je puis faire une petite croix qui sera la représentation d'une partie de l'entier, puisque visiblement, ceci est beaucoup plus petit que ceci. Alors, voilà comment, ici, ceci va rejoindre ceci, et ceci va descendre à cela. Et alors, le plus grand descend à ça, c'est le fleuve du Sagittaire. Il descend dans les eaux du poisson, et toute l'opération de la partie qui va maintenant entrer dans son devenir, qui va être maintenant l'entier que voici. Cette opération de la partie à l'entier qui lui-même est une partie d'un plus grand entier, qui lui-même est une partie d'un plus grand entier. Les choses n'entrent pas par un simple emboîtement les unes dans les autres. La croissance d'une feuille, d'une fleur, d'une racine, la croissance de votre corps, la croissance d'un enfant, se fait exactement par cette mathématique rigide qui se fait par la loi des coordonnées de la croix qui maintient toujours l'équilibre ici à tout moment entre la montée et la latéralité, assurant que tout se passe de manière à ce que tout s'insère proprement dans ce qui est plus grand que soi ou descend du plus grand que soi au plus petit possible. Tout votre corps n'est fait que de ça. Tous les jours que Dieu fait, c'est ce qui se passe. Il suffit d'y aller voir. Le devenir, c'est ça. Le devenir après la mort, c'est ça. Le devenir, alors c'est ça, donc indéfiniment. On l'appelle après le divin, le paradis, ou tout ce que vous voudrez. Qu'on y mette tous les ornements imaginables, c'est toujours cette même loi. Et l'enfer, ou plus exactement la primitivité de l'espèce humaine, ou plus exactement encore la primitivité même de la Terre dans ses premiers âges géologiques, et encore antérieurement à ça, c'est toujours cette même loi en opération du plus grand au plus petit, du plus petit au plus grand. Il n'y a pas de solution de continuité. Pas. L'univers ne se rompt pas. Il ne se divise pas. Cela, il faut le comprendre. Pour comprendre que précisément, on ne comprendra jamais la procédure astrologique et de quel droit cette science enseigne certaines choses si l'on n'a pas saisi que la vie, le mouvement et le temps n'est pas autre chose qu'une procédure du passage de la partie au tout, comme la seconde qui, finalement, après 59 secondes, cesse d'être seconde, mais devient minute. De sorte qu'on ne dira pas 72 minutes, 72 secondes, on dira 1 minute 12 secondes. On ne dira pas 128 secondes, on dira 2 minutes 8 secondes. On ne dira pas 128 minutes, on dira 2 heures, 8 minutes, parce que la minute elle-même est plus grande que la somme des secondes. Pourquoi est-ce que la minute est plus grande que la somme des secondes? Et tout est là. Pourquoi est-ce qu'un entier est plus que la somme de ses parties? Mais parce que l'entier seul a le droit d'être incorporé et est incorporé automatiquement à l'entier qui est plus grand que lui. Je suis le monsieur qui gagne 10 sous par jour. Mais si un certain nombre de jours, j'ai réussi à gagner 10 sous par jour, tout à coup, me voilà placé devant le droit de faire 100 sous par jour, mais pas avant le 60e jour. Donc, ma position, le 60e jour, n'est pas seulement la totalisation de mes 10 sous par jour, c'est en même temps la prérogative que j'ai dorénavant dans mon devenir de faire 100 sous par jour. Et cette prérogative qui ne commencera que ce jour-là, cette prérogative fait que le tout est toujours plus que la somme de ses parties. J'espère que vous m'avez bien comprendre. C'est absolument capital, ça. Vous ne comprendrez jamais la théorie astrologique, la chose la plus difficile du monde à comprendre. Ça va aussi loin comme cérébration que la compréhension du mécanisme même et de la réalité et du jeu des atomes les uns sur les autres. C'est une psychologie atomique, l'astrologie. Les trois croix, placées alors maintenant ici en 12 bras, cette croix sainte, placée en 12 bras, que représente-t-elle? Car l'astrologie, ce n'est pas autre chose que l'exploitation à fond de tout ce qui est contenu dans la croix. C'est la croix qui est l'astrologie. Les astres, j'en parlerai tout à l'heure. C'est la croix. Or, la croix, c'est un organe de relation entre ce qui est plus petit que soi et ce qui est plus grand que soi. Ce n'est pas autre chose que ça. La croix, un organe de relation, ah voilà, entre cette croix qui est plus grande et celle-là qui est plus petite. Et ce n'est pas autre chose que ça. La croix représente le pouvoir et l'obligation d'être en relation avec ce qui n'est pas soi. Et que ce qui n'est pas soi soit en relation avec soi. Voilà la respiration, le respire, inspire, expire de chaque croix, c'est-à-dire de chaque individu. Si vous n'êtes pas le point au centre de la croix, vous êtes la croix, c'est-à-dire que vous avez l'appétit de la vie. Vous avez l'appétit du devenir parce que vous êtes vivant. Et ayant l'appétit du devenir, vous jetez des ponts, des bras dans toutes les directions, mais d'autres jettent des bras pour attraper les vôtres. Et cet attrapage de vos bras par les bras des autres, c'est le dynamisme en astrologie. Le dynamisme astrologique, il est là. C'est parce que vos bras de croix, ici, sont constamment attrapés par les bras de croix ici, dans leur propre mouvement circulaire, que les vôtres sont soulevés au-dessus d'eux-mêmes et permis d'entrer graduellement par la loi de translation des grandeurs dans l'entier qui est plus grand que votre partie. Je crois que c'est clair. Et c'est fondamental, ça. Et c'est fondamental à toutes les sciences. Et un jour, toutes les sciences le verront très clairement. Et il y en a beaucoup de sciences qui l'ont déjà vu très clairement, mais n'ont pas encore lié ça à un entier qu'on appelle le système solaire. Ni même à l'entier qu'on appelle le système Terre. L'astrologie a le devoir, et je dirais le génie précisément, de se centrer sur cette partie-là de la science générale. J'ai dit, la croix est un organe de relation. 12 bras de croix représentent des organes de relation dans tous les sens, mais surtout dans le sens de ce qui est plus petit que soi et de ce qui est plus grand que soi. Or, il en faut 12 pour faire des relations normales avec ce qui est plus petit et plus grand que nous. Pour le devenir de ce qui est plus petit que nous passant à travers nous. Pour le devenir de nous passant à quelque chose de plus grand que nous, il faut 12 bras de croix, voilà les trois axes. Les trois axes du monde sont indispensables à toute opération de véritable devenir, c'est-à-dire de véritable métamorphose. Or, franchement, personne n'est intéressé à rester lui-même sans métamorphose. Nous crevons tous d'envie de nous métamorphoser, seulement quelquefois il arrive le moment où il faut la métamorphose, on crie « aïe, 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 je ne suis pas si pressé que ça d'y arriver ». Mais on y arrive quand même. Et là, c'est Saturne qui parle. Uranus vous en donne le goût, la saveur, Saturne vous en donne l'oreille. Heureux ceux dont le génie de leur être leur a montré le mouvement vital de la transposition, de la translation, avant que Saturne a dit « voici l'heure ». Maintenant, parlons un instant de cette chose capitale qui s'appelle, qui est le parti du jargon astrologique et que nous appelons la planète. La planète. L'autre jour, une personne, un homme, tout nouveau à l'astrologie, me posait tout naturellement cette question, mais pourquoi est-ce que le Sagittaire, c'est la neuvième maison? Autrement dit, le neuvième bras de la croix. Pourquoi? Et pourquoi Jupiter pour le Sagittaire? Ah. Et tout est là. La raison, vous allez la comprendre, je crois, tout de suite. Comme la croix, et le zodiaque ici n'est pas autre chose qu'une croix avec 12 signes, 12 symboles, représentant quoi? Mais représentant la fonction spécifique de ce rayon de la roue. Dans le rayon, dans la roue a fait de 12 rayons. Les 12 signes du zodiaque représentent chacun la qualité, la fonction et la vie de la fonction spéciale de ce rayon et pas d'un autre. Chacun a des attributs particulièrement définis. Et les autres ne se confondent pas avec cela. Prenez la roue d'un chemin de fer, la grande locomotive. Arrêtez-vous, vous avez certainement fait ça, dans une grande gare comme la gare de Lyon, par exemple, lorsqu'un des grands trains arrive, les trains à vapeur, surtout qu'ils révèlent dans toute leur nudité le mécanisme du piston s'appliquant sur le rayon, sur l'un des rayons d'une roue. Or, le piston, il est appliqué à un rayon de la roue et pas à un autre. Et pas à un autre. Le piston qui s'applique à ce rayon spécifique de la roue, c'est le nom que nous donnons à une planète. C'est la puissance particulière qui a la besogne de faire marcher ce rayon-là de la roue. Avoir les autres planètes en jeu, c'est dire que les autres planètes sont chacune un piston d'un autre rayon de la roue. La puissance du pistonnage, alors, qui va maintenant s'appliquer spécifiquement à un rayon spécifique de la roue, c'est une autre histoire sur laquelle il sera très bon de revenir et de fouiller, parce que là, c'est tout ce qu'on appellera l'influence des planètes. L'influence des planètes n'est pas externe, il va de soi. Je ne reviens pas à ça maintenant. Je parle du piston. Et pourquoi est-ce que je parle du piston s'appliquant à un rayon de la roue et pas à un autre? Parce que ce qu'on appelle la maîtrise d'un signe, ou donc la maîtrise d'une maison, la maîtrise du Sagittaire, c'est la maîtrise de la maison 9, c'est le Sagittaire et la planète en est Jupiter. Représentation algébrique de Jupiter, de la puissance qui anime et qui est le piston du rayon 9 de la roue, qui est le rayon dit Sagittaire. Le mot Sagittaire, le mot Jupiter, le signe Sagittaire, le signe 9, ces deux choses-là, c'est tout simplement un langage représentatif, ramassé en langage symbolique, veut dire qu'un certain piston, allant avec une certaine allure, avec une certaine puissance, dans un certain but, anime le neuvième rayon de la roue. Et c'est pas autre chose. Pas autre chose. Le bélier est un piston, représente un piston, c'est-à-dire une puissance que l'on appelle Mars, qui a une fonction spécifique qui ne doit pas être celle du Sagittaire, donc du Jupiter. Ah non, pas du tout. Alors, il n'y a aucun rapport. Le bélier, lui, le Mars, son action, c'est d'attaquer l'immédiat, ce qui est exactement sous son nez. Il ne voit pas au-delà de ça. En lui-même, le bélier ne voit que ce qui est sous son nez. Alors ça, il le voit bien. Et il le voit surtout en l'attaquant. Il y va voir en l'enfonçant. C'est après l'avoir enfoncé qu'il se dit, tiens, maintenant je vois ce que j'ai fait. Mais c'est trop tard, c'est fait. Et quelquefois, c'est très bien qu'il l'ait fait d'abord, parce que peut-être il ne l'aurait pas même essayé avant. Mais voilà, le bélier, c'est l'immédiat. Or, le Sagittaire, alors le piston qui anime la première maison astrologique, c'est agir sur l'immédiat. L'immédiat en dehors de soi. L'immédiat de l'ambiance. Mais le Sagittaire, c'est au contraire le piston qui agit sur un rayon de la roue, qui vise le plus éloigné, le plus distant, le plus grand. Est le plus haut, c'est toujours plus haut que la position des rails qui attaque le bélier. Voilà, c'est toujours une montagne. Il y a toujours l'envol de l'avion dans le Sagittaire. La puissance qui fait marcher le neuvième rayon de la croix, c'est une puissance d'envol. Le bélier, mon Dieu, il a simplement réussi le miracle d'ébranler l'inertie d'une masse de wagons. Bah, il les a fait rouler, voilà, il les a fait rouler, quelle que soit la vitesse. Du moment qu'il a brisé l'inertie, que le train s'ébranle, voilà, le bélier est satisfait. Le piston de la première maison a joué. Mais quand il s'agit que ce train, d'un coup, quitte le sol, parce qu'il prend de la vitesse, et parce qu'il est arrangé dans son neuvième rayon de la roue, de pouvoir prendre un vol, alors il faut une autre puissance, et là, le nom Sagittaire, Jupiter. Voilà ce que c'est. Alors maintenant, comprenez bien, ça c'est la maîtrise d'un signe, donc la maîtrise de la maison. Et comme signe et maison sont identiques dans la loi du zodiaque, que dans le terme individuel, nous dénombrons ça, parce que nous sommes nés à toutes les minutes de la journée, et que naturellement ça fait une variété infinie, d'où la variété infinie des hommes, tout en étant toujours des hommes. Revenons au fait que la neuvième maison sera toujours Sagittaire dans le zodiaque naturel, et qu'elle fonctionnera dans tous les thèmes, pas avec les moyens du Sagittaire toujours, puisque nous pouvons avoir le Taureau pour la neuf, mais parce que l'heure de naissance aura voulu ça, mais que malgré tout, on tâchera de faire avec Taureau Vénus un peu ce qu'on aurait dû faire ou qu'on pourrait faire autrement avec le Sagittaire Jupiter. Il est certain que la montée par la puissance de la Vénus Taureau dans la maison 9 n'est pas la montée que ferait le feu du Sagittaire. Mais c'est une nécessité de monter tranquillement, de se bien tasser dans la montée. Mais alors ça, le changement des signes ainsi sur les maisons qui ne sont pas les leurs, c'est toute une histoire admirable à étudier en elle-même. Et c'est tout l'éventail de l'espèce humaine, de nos races, de nos comportements individuels qui est en jeu. Donc je reviens à ce fait. La planète est le piston d'un rayon de roue. Et c'est pas autre chose. Par conséquent, il ne peut pas venir nous dire, oh bien, la planète, oh bien, elle est maître de tel signe, et puis elle est aussi maître du signe à côté. Par exemple, nous sommes devant une tradition astrologique, on comprend très bien comment c'est venu, que le Verseau, ben, c'est Saturne qui en est le maître, aussi bien que l'Uranus, ou bien que le Poisson, ben, c'est le Jupiter qui en est le maître, d'abord et ensuite le Neptune. Non. Ou bien le rayon a un piston ou il n'en a pas un du tout, il n'a rien, il n'en a pas deux. Maintenant, quand il y a des sous-pistons de ce piston, il y a ce qu'on appelle les décans, il y a certaines planètes qui jouent dans un signe plutôt que l'autre comme subordonnées, oui, puisque nous avons par exemple, lorsque nous avons le Verseau, nous allons avoir Uranus, puis nous allons avoir Mercure, puis nous allons avoir les trois maîtres, les trois régisseurs, les trois pistons des signes de terre. Non, des signes d'air, j'entends. Verseau, Gémeaux, Balance. Ces trois pistons vont jouer quand même dans ce signe Verseau. Ah, il y a un rapport d'analogie, il y a un rapport de fonction. Par conséquent, ce sont des sous-pistons. D'accord. Et alors, dans les poissons, on comprend à la rigueur Jupiter, puisque malgré tout, n'est-ce pas, c'est Jupiter qui travaille pour l'exaltation de Neptune, qui est le maître des poissons, qui est le grand piston du poisson. Alors naturellement, il y a là un rapport. Mais la réelle raison, c'est que l'humanité a lentement défait le brouillard devant ses yeux quant à la signification des valeurs les plus profondes du cosmos humain et général. La valeur du poisson est quelque chose de tellement vaste qu'il est étonnant qu'on ne lui ait pas donné encore d'autres maîtres, c'est-à-dire qu'on n'ait pas appelé au secours pour interpréter ce mystère cosmique, cet océan, qu'on n'ait pas mis là-dedans à peu près toutes les forces planétaires imaginables et connues. C'est assez curieux. D'ailleurs, probablement, dans l'histoire de la conscience humaine, en train de saisir la morphologie de son univers d'une façon précise, des images plus ou moins douteuses, plus ou moins floues, ont certainement dû être partie de la littérature de certaines cultures anciennes. Toujours est-il que le poisson, le Sagittaire, c'est le Jupiter comme piston, et pas un autre. Que le poisson, c'est un Neptune, pas un autre. Que le Verseau, c'est un Uranus, pas un autre. Quand on ne connaissait pas Uranus, il fallait bien mettre Saturne. Et si les astrologues de l'époque ont mis Saturne, ils l'ont mis avec une certaine facilité, mais ça c'est parce qu'il y a une démarche intellectuelle qui est propre à la recherche astrologique, qui est fréquemment et constamment en défaut et sur laquelle il faut tous nous surveiller. À savoir que nous sommes malgré tout dominés par la physique des astres et que nous les voyons toujours comme des choses extérieures à nous-mêmes, c'est tellement prodigieux de se dire et de sentir que les astres que nous voyons au dehors sont aussi correspondants à les mêmes astres qui sont au-dedans de nous. C'est ça qui est tellement formidable. Et ce sont ces astres au-dedans de nous qui comptent. Pour nous, c'est ça qui compte. Nous nous moquons éperdument des autres pour ce qui est de notre vie personnelle. Mais c'est cette correspondance qui est effarante, c'est ça. Or, c'est une idée toute nouvelle pour l'Occident. L'Orient a cette idée de la correspondance. L'Occident est en train de la redécouvrir. La pensée orientale procède par la loi de correspondance. L'Occident moderne procède par la loi de causalité, cause et effet. C'est tout à fait autre chose. Correspondance entre un monde et l'autre. Monsieur Pouget, le fameux moine, a écrit, paraît-il, dans un de ses mémoires, que l'univers n'est pas une affaire de continuité, mais de contiguïté. Alors, vous voyez que l'idée de la contiguïté est une idée de correspondance, mais l'idée de continuité est une idée de causalité. Alors là, il était en train, dans la profondeur de sa vie mystique, son cerveau a finalement touché une chose capitale, la contiguïté. Les univers procèdent par des contiguïtés et des opérations qui sont en co-action par conséquent. Pas comme un jeu de domino, l'un tombant fait tomber toute la chaîne, mais pas du tout. C'est que quelque chose d'autre assure le synchronisme, la simultanéité des opérations à tous les bouts de toutes les chaînes à la fois. L'univers est donc plus profond et le principe de causalité est insaisissable, il est derrière la synchronicité. Tu vois le thème d'une femme. Et je me dis, attention, il y a là un creux énorme. Elle va tomber amoureuse d'un parfait crétin. Mais ça ne va pas rater. Je vois dans son thème le crétin, c'est-à-dire je vois la planète qui le représente. Et je vois la planète qui représente la femme, la puissance d'attraction qu'il va y avoir entre le... Pour ce crétin. Mais ce crétin, elle ne l'a jamais vu. Elle ne sait même pas qu'il existe. Mais il est dans son thème. Il est dans sa partie intérieure de son être. Il est là. Il est là. Il est dans son thème. Et je me dis à moi-même, le mouvement de la translation des valeurs va faire que dans 3 mois, ça sera l'apothéose de cet égarement. De cette fausse optique qui va lui créer une fascination. Mais en même temps, je ne doute pas un seul instant qu'en 3 mois va se présenter alors physiquement le crétin en question. Et c'est la loi de correspondance. Alors, vous comprenez, il ne faut pas venir nous dire que c'est cet imbécile-là qui a perdu la femme. Parce que si elle n'avait pas eu cet aspect dans son thème, elle n'aurait jamais pu être perdue par ce crétin. Il ne faut pas dire qu'elle est responsable non plus, ni que lui n'est responsable. Quelque chose allait se passer, une échéance psychique toute spéciale, une dénivellation de la gravitation interne allait se faire en elle-même, pendant qu'il s'en faisait une autre simultanément dans le crétin en question. Et les deux se sont embrayés l'un sur l'autre. À ce moment précis de l'apothéose de leur crétinisme réciproque. C'est la simultanéité qui sort du mystère du centre dans les croix. C'est cette simultanéité qui pousse, qui pousse, qui pousse, et qui fait qu'à un moment donné, celui-ci fait ça, et à un moment donné, celui-ci fait ça. Celui-ci aurait fait ça de toute façon, même si celui-là n'était pas là. Mais absolument, il aurait fait la même chose. Seulement, il fallait la polarité pour amener, comment dirais-je, que tout soit achevé, soit bien rond, soit bien complet. Donc, jamais c'est un homme qui quitte une femme pour une autre femme. Ça, c'est l'apparence. Jamais une femme ne quitte un homme pour un autre.